Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission aujourd'hui d'Invités de Charles Gave, où nous avons l'immense plaisir, la grande joie de recevoir le professeur Samuel Furfari qui arrive de Bruxelles, qui arrive ce matin. Alors vous êtes ingénieur et docteur de l'Université libre de Bruxelles, c'est ça, et vous avez travaillé 40 ans à peu près dans les technologies énergétiques et la géopolitique de l'énergie. Donc ça fait de vous un expert. Alors comme je vous disais un peu plus avant dans l'émission, je vous ai connu par un premier livre qui était sur la chrétienté et l'énergie, c'est-à-dire comment aujourd'hui le chrétien peut résoudre la question écologique, pardon, j'ai dit énergie, mais c'était plutôt l'écologie. Et aujourd'hui, vous avez commis ce livre-là qui s'appelle « Énergie, mensonge d'État », que je montre à la caméra, et qui revient un petit peu sur le périple qu'a été la création énergétique en Europe. Pendant 64 ans, vous dites, tout s'est très bien passé, on était content de travailler de concert pour avoir une énergie abordable qui permettait aussi une industrie pérenne. Et aujourd'hui, depuis 2016, on ne sait pas trop pourquoi, ou peut-être on le sait trop bien, tout part à la valo, tout ce que vous avez construit, vous, de votre vivant, puisque vous avez contribué en travaillant aussi à la Commission à ce que les choses se fassent de manière intelligente entre nos différents pays, avec l'Italie, avec la Grande-Bretagne, avec la Belgique aussi, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce boulet qui est devenu l'énergie pour notre industrie, et comment s'en sortir. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la parole pour que vous nous expliquiez un peu plus. Déjà, à mon avis, on peut commencer à partir sur ce qu'était l'UE d'antan. Alors, pour revenir dans vos premiers chapitres, c'est-à-dire l'UE
Je peux intervenir une seconde à ce moment-là, parce que moi, je voudrais dire à quel point j'ai apprécié votre premier livre, qui était le livre d'un chrétien qui disait on ne peut pas être chrétien et malthusien à la fois.
Exactement.
C'est-à-dire, c'est une impossibilité. Et donc, ça me faisait grand plaisir, d'abord parce que Malthus était un pasteur, donc lui, il pensait qu'on pouvait, mais parce que c'était un cri d'optimisme, quoi, en disant, mais arrêtez de penser qu'il y en aura pas assez pour tout le monde. Quoi.
Voilà,
donc, c'était. Et ce livre, je l'ai trouvé, et d'ailleurs, je l'avais trouvé très intéressant à lire. Et donc, je suis ravi de vous recevoir, avec ma fille, bien sûr, parce que maintenant, c'est un peu plus technique, cela, vous allez dans la nature, et plus politique, celui-là. L'autre, le précédent était un peu philosophique.
Oui.
Et donc, je reprends la question de ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est la grande question qu'on se pose. On a reçu ici des spécialistes de l'écologie, des spécialistes de l'énergie. Et tous, ils ont l'air de penser qu'on a raté une marche quelque part dans les années 2000, quoi.
Tout d'abord, un grand merci pour votre invitation et merci de rappeler ce livre sur la place de l'homme dans la nature,
oui.
La place de Dieu dans la nature. C'est encore un sujet sur lequel je travaille. Mais ici, ce livre, je l'ai écrit parce que j'étais triste, vraiment attristé de voir ce qu'était devenu la politique énergétique européenne. Quand je suis rentré, c'était rempli d'ingénieurs enthousiastes. Je suis rentré en 82. D'ingénieurs enthousiastes qui développaient des technologies. On était en plein développement d'innovation. Vous savez qu'on a résisté au choc pétrolier. Terrible choc pétrolier.
Oui, de 74.
Grâce à la technologie développée promue par la Commission européenne. La Commission européenne a financé des industries pétrolières, pas les grandes compagnies pétrolières, mais les parapétroliers, ceux qui développent les technologies, pour pouvoir développer la mer du Nord.
Oui,
mais je me souviens.
Vous rendez compte, la Commission européenne finançait des entreprises qui devaient développer le pétrole et le gaz dans la mer du Nord. Grâce à ça, on s'en est sorti.
Et c'est aujourd'hui la Norvège, parce que la Norvège, ils ont eu plein d'avantages.
Exactement. Et aujourd'hui, le mot pétrole n'existe plus à Bruxelles. C'est quand même invraisemblable. Quel changement. Et puis, progressivement, on a développé toutes sortes de technologies. Pendant beaucoup d'années, j'ai travaillé sur ce qu'on appelait les clean coal technologies. Comment utiliser du charbon de manière non polluante.
Oui, la plus propre possible.
La plus propre possible. Aujourd'hui, ce sont les Chinois et les Japonais qui ont acheté toutes nos technologies. Ils les ont achetées. Ils ont repris tout leur savoir-faire.
Que vous aviez piqué, que vous avez piqué de l'Allemagne pendant la guerre, parce que l'Allemagne pendant la guerre...
on a beaucoup amélioré. Hein. Grâce à la Commission européenne, on avait beaucoup amélioré ces technologies.
Donc ce que vous dites, c'est très intéressant, c'est que la Commission européenne, à l'époque, était très favorable à la croissance.
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, je reviens au départ maintenant de votre question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 1955... juste quelques années après la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les six ministres des Affaires étrangères se réunissent à Messine,
oui,
en Sicile. Et ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on va faire? On a démarré avec la CECA, puis on a l'échec de l'Europe de la défense.
De la défense, oui.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont réfléchi, ils ont dit, on va créer le marché intérieur pour l'agriculture, donc c'est ce qu'on a appelé le marché intérieur. Puis ils ont dit, c'est pas suffisant, il n'y aura pas d'avenir sans énergie abondante et bon marché. Ça, c'est le point de départ de l'Union européenne. Il n'y aura pas d'avenir pour la communauté, comme on l'appelait alors, sans énergie abondante et bon marché. Et donc ils ont dit, on doit faire le nécessaire pour qu'il y ait cette énergie. Et à l'époque, c'était le lancement de l'énergie nucléaire. Et c'est comme ça qu'est né le traité Euratom. Et puis, charbon, Euratom, et progressivement avec les chocs pétroliers, pétrole et gaz, on a construit des choses extraordinaires, y compris, on a beaucoup travaillé, moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur les économies d'énergie. Bien entendu, on doit faire... vous savez que Marx se moquait de Adam Smith parce que Adam Smith voulait faire des économies, pas de gaspillage. Donc c'est évident que gaspiller, ça n'a aucun sens. Un ingénieur est toujours là pour essayer de faire des choses efficaces et pour ne pas gaspiller.
Pour aller d'un point à un autre, la nature choisit toujours la ligne droite, le chemin le plus court.
Le plus efficace.
Voilà. Donc c'est dans la nature. Éviter le gaspillage, c'est naturel.
Et donc on a développé toutes sortes de politiques extraordinaires. C'est un enthousiasme formidable. Et puis progressivement, à partir de 2005, je dirais, on a commencé à percoler l'idée du changement climatique, du manque de ressources, qu'on peut pas continuer comme ça, qu'on va droit dans le mur. C'était tout à fait marginal. Hein.
Et c'était porté par qui? Par les écolos allemands?
Oui, les écolos allemands. Et puis, en fait, moi je parle des écolos de tous les partis, hein, parce qu'il y en a dans tous les partis. Mais c'est surtout l'Allemagne qui a commencé. Et puis, progressivement, c'est devenu de plus en plus fort, aussi par un système pernicieux d'endogamie. Oui. La Commission européenne finance des études, et ces études, elles sont phagocytées par une multitude d'ONG qui appuie la politique de la Commission, qui a permis d'avoir cet argent, et donc dans un système de vase clos, parce que c'est un véritable vase clos, moi j'appelle ça le ghetto de Strasbourg, Bruxelles, dans ce système de vase clos, il y a de l'endogamie, et on se répète la même chose, et on en est arrivé à aujourd'hui, à ce que on ne peut plus rien dire dans le domaine de l'énergie, si ce n'est éolienne et solaire. Et donc c'est un changement d'époque invraisemblable et incompréhensible. Et le sous-titre du livre, c'est...
la destruction organisée de la compétitivité de l'UE. Et je pense que c'est ce à quoi on arrive. Mais alors, si on vous écoute, puisque ce sont des religieux, en définitive, qui ont pris le pouvoir, c'est-à-dire des gens, des lobbies, qui sont dans leur vérité pure, et il n'y aura aucun moyen d'en sortir, si ce n'est les pieds dans la neige. C'est-à-dire qu'à un moment, si la population se retrouve avec des coupures d'électricité massives en plein hiver, il y a peut-être un moment où on va leur couper les oreilles en pointe à ces gens-là, en leur disant, écoutez, ça va bien, vos histoires. Nous, on a besoin de travailler et ça doit se faire avec une électricité bon marché. Sinon, comment s'en sortir, à dire vrai?
Mais là, il faudra, une fois qu'on aura eu ce point de vue, il faudra encore 7 ou 8 ans pour que ça ait un effet sur la production.
Bien évidemment. C'est pour ça qu'on est mal. Je trouve qu'on est mal. On a laissé aller trop loin la dérive. Je vois bien qu'il y a des prises de conscience. Hein. On n'est pas les seuls à le dire. Les gens commencent à réfléchir aussi. À Strasbourg, bon, il y a des députés qui me parlent, qui m'expliquent, bah oui, vous avez raison, mais on peut pas le dire. Même le parti nous interdit. C'est... Même un parti de centre droit. C'est interdit de le dire.
Mais c'est pour ça que c'est religieux.
Oui.
C'est pour ça que c'est devenu un esprit religieux.
Ça veut dire qu'on a donc une tentative de contrôle de la pensée.
C'est... En matière d'énergie, c'est un véritable contrôle de la pensée. Ça, c'est évident.
Mais c'est ce que vous dites dans le livre à propos d'Angela Merkel, en disant elle-même, au fond d'elle, le sait très bien de par sa vie professionnelle, mais elle sait très bien aussi que par rapport à son groupe et à l'Allemagne et à ce, qui est sans, ce qu'on doit pouvoir dire parce que c'est un peu les bisounours, c'est ce qu'on attend d'elle. Donc, c'est toujours pareil, c'est comme en France, pour littéralement trois pelés et quatre tondus, on fait une politique à la marge, en réalité.
Vous avez bien raison de dire que c'est une minorité qui a imposé cette vision de la décarbonation qui va tout détruire. Et donc, Madame Merkel, c'est un bon exemple. Elle est physico-chimiste.
Oui, quand même.
Elle doit savoir de quoi elle parle.
C'est vraiment une discipline très, très pointue en science, la physico-chimie. Et donc, elle savait très bien ce que c'est. Elle a été élue trois fois en promettant la relance du nucléaire, parce qu'elle était convaincue de cela. Et puis, elle a vu que c'était inutile avec une population tellement convaincue que le nucléaire est mauvais, ben elle a abandonné sa rationalité. Elle n'a pas hésité de le dire, elle le dit. Maintenant, elle le dit, que voilà, bon, elle a fait de la politique.
Alors, oui, mais elle a fait de la politique, c'est-à-dire qu'elle a cédé à des mauvaises idées pour être élue. Est-ce que c'est ça la politique ou est-ce que c'est...
Ah ben non, c'est
ça. Ça, c'est la politique politicienne,
c'est
en
la
vrai.
C'est la politique pour être élue aux prochaines élections
mais
cantonales.
C'est ce qu'il y a beaucoup, c'est ce qui se passe beaucoup aussi dans les élections. C'est toujours la même chose. On veut faire plaisir au public et on ne dit pas la vérité. Vous savez, je viens de prendre le taxi pour venir ici et j'ai demandé le taximan me demandait qu'est-ce que je fais. Et forcément, on parle de cela. Et je lui ai posé la question, à votre avis, combien ça représente l'éolien et le solaire en Europe? Bah, il a hésité, il avait peur de dire une bêtise. Et il m'a dit 30%. Je lui ai dit, c'est 3%. L'éolien et le solaire en énergie primaire, c'est 3%. Mais on cache la vérité en vous parlant du pourcentage dans l'électricité ou bien dans le pourcentage dans les énergies renouvelables.
Ou dans la capacité qui n'est jamais utilisable à plein.
Voilà, mais quand vous regardez les chiffres purs de Eurostat sur la quantité d'énergie produite, l'énergie primaire produite, c'est 3%. Et alors, ils viennent vous dire avec un aplomb qu'on va passer à 100%.
Oui,
mais alors qu'on
est, avant, mon petit,
on
déjà.
Est à 80% sur le fossile depuis 25 ans.
Oui.
Ça n'a pas bougé.
Le pourcentage. La valeur absolue,
elle
augmente.
Elle augmente. Mais le pourcentage, on est à 80%. Donc, on nous raconte des calembredaines. On ne nous donne pas les chiffres.
Bien sûr.
On nous... Mais quand je dis « on », qui c'est ?
C'est pas une personne, c'est pas un groupe, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de groupes.
Mais pourquoi ?
Tout d'abord pour être politiquement correct, parce que il faut vendre du rêve, hein. Vous savez, on est dans un monde, tant qu'il y avait le communisme ou le soviétisme, les gens encore avaient une raison d'être, ils se battaient pour un idéal. Faut pas oublier que en France, Monsieur Marchais, et en Italie, Monsieur Berlinguer, ben, ça représentait un tiers de l'électorat, hein. Et puis, la déception a été énorme, et il a fallu trouver autre chose. Les gens étaient toujours contre l'économie de marché, hein. Tous ces gens-là, ils ont reconnu que le soviétisme est un échec, mais ils ne veulent pas admettre que l'économie de marché est toujours valable.
Il y a Revel qui a écrit des choses intéressantes là-dessus.
Oui. Et donc, dès qu'ils ont vu que les écologistes étaient en fait des destructeurs de l'économie de marché, bah, tout le monde a couru là-dedans. Donc, il y a toute cette partie des anciens, des nostalgiques du communisme.
Donc, ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant, c'est que c'est des gens qui veulent vivre dans le rêve.
Oui.
Qui refusent la réalité.
Ils refusent. Par idéologie, on refuse d'admettre que l'économie de marché, c'est quelque chose qui a fait fonctionner le monde. C'est ça. Depuis toujours, si quelqu'un achète, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vend, et les deux parties sont contentes. Acheter et vendre, ce sont deux personnes, deux groupes qui sont contents du marché.
La somme des satisfactions est plus élevée.
Bien sûr.
C'est ce que me disait mon professeur d'économie à Toulouse il y a très longtemps. Il disait, il y a que deux façons d'organiser la société, ou avec la main invisible d'Adam Smith, ou avec le grand coup de pied dans le derrière de Staline.
Voilà.
Il n'y en a pas d'autres.
Et donc, il y a des gens qui n'ont pas accepté ça et qui reviennent encore en force avec ces contrôles de la vie à travers l'énergie. Parce que le grand climatologue Richard Lindzen a dit, si vous contrôlez le carbone, c'est-à-dire les émissions de CO2, vous contrôlez la vie.
Bien sûr.
Puisque 80% de l'énergie vient avec des émissions de CO2. Donc, si on vous limite la quantité de CO2 que vous émettez, ben on limite votre vie. Hein. C'est pour ça que certains disent on va limiter le nombre de voyages en avion. Comme ça, on va limiter la
l'impact. Ou la viande qu'on bouffe.
Ou la viande qu'on bouffe, bien sûr.
C'est bon, on ne voit plus ça, tiens.
Alors, le deuxième groupe, ce sont ceux qui profitent du système. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent du système.
Ah, ce que ça n'aide pas. Je suis triste
parce que j'ai été chercheur et je sais bien combien on est passionné quand on fait de la recherche. Et donc, j'insiste, les chercheurs sont des passionnés qui font leur travail convenablement. Mais la direction au-dessus des chercheurs, elle a besoin d'argent.
Oui.
Et donc, il faut trouver des subsides. Et trouver des subsides, on ne les trouve que dans des sujets politiquement corrects. Et donc, le budget de l'Union européenne, c'est uniquement des sujets politiquement corrects. Tout ce qui est vert. Le reste, c'est fini. C'était pas le cas dans le temps, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans le temps, on finançait tous les domaines de l'énergie.
Oui, mais
maintenant, c'est uniquement
que...
le vert et le vert.
Mais ça veut dire qu'on fait bosser des chercheurs sur des choses qui, par définition, n'aboutissent à pas grand-chose, puisqu'on rappelle 3%. Donc, on a tous nos chercheurs qui se retrouvent dans un vase clos de choses. Vous voyez, j'ai l'impression de voir les machines à café dans Gaston, c'est-à-dire des énormes trucs comme ça, puis il sort 3 gouttes. Et la machine est grande comme cette pièce. C'est-à-dire, on a mis tous les chercheurs, ça coûte très cher, et on a 3 gouttes de quelque chose.
On a dépensé entre 2000 et 2022 plus de 1000 milliards dans l'Union européenne, plus de 1000 milliards de promotion des énergies renouvelables. Environ 90% pour l'éolien et le solaire. Donc voilà, on a dépensé énormément de l'argent de nos taxes.
Bien sûr, bien évidemment.
On aurait fait 1000 milliards de centrales nucléaires.
Bien sûr, ça irait mieux.
Hein.
L'autre groupe qui profite du système, ce sont les investisseurs dans les énergies renouvelables. Parce que non seulement ils ont des subsides, maintenant ça diminue, mais la production d'électricité qu'ils vendent, ils la vendent au prix du marché de la dernière centrale mise en route, c'est-à-dire au prix le plus haut.
Le marginal le plus haut.
C'est ça, ce qu'on appelle la courbe de charge. Hein. Donc, le vent ne coûte rien du tout, donc son prix est très bas. Mais en Allemagne ou en Italie, on doit mettre en route des centrales au gaz. Et que si on a un marché européen, le prix de l'électricité est le même partout. Et donc, ils ont un bénéfice énorme. Ce qui est éthiquement scandaleux. Donc, ce sont ceux qui développent des parcs éoliens qui empochent le plus d'argent. Et le comble, c'est qu'on vient dire que c'est l'économie de marché qui vient détruire tout cela.
Mais bon. En fait, c'est ça qui vient détruire l'économie de marché.
Oui, aussi, oui, bien sûr.
C'est ça qui vient détruire l'économie de marché. Donc, on se retrouve. En fait, il y a des tas de gens qui gagnent énormément d'argent là-dessus. Et on sait qui sont ces gens un petit peu. Comment ces contrats sont-ils passés? Est-ce que c'est 1000 milliards? Est-ce qu'il y a eu des appels d'offres?
Je ne vais pas dire le nom, mais dans un projet d'éolien en mer en Belgique, c'est une entreprise de distribution d'alimentation qui a gagné le marché. Pourquoi est-elle allée se mettre dans un projet d'éolienne en mer?
À cause des subventions.
Voilà, c'est le jackpot assuré, quoi. Donc,
mais si vous voulez, c'est un jackpot qui fait baisser la rentabilité du capital en dehors de ce jackpot. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qu'il crée, c'est pas une valeur qu'il crée, c'est une valeur qu'il vole.
Qu'il capture,
et que ça veut dire que le reste perd.
Ouais.
Et donc, automatiquement, ça mène à un appauvrissement général.
Du point de vue macroéconomique, tout le monde perd.
Après, les entreprises peuvent faire ça pour le branding, justement, pour se dire, regardez comme on est vert, on a investi dans le développement durable. On le voit dans tous ces critères ESG qui ont été mis en place sur les marchés, combien les entreprises, justement, sont friandes de... Combien même la rentabilité est affolante et absolument pas aux normes. Mais de pouvoir se mettre une étiquette, je suis green, et ainsi de suite...
Verdissement de l'image.
C'est immense, oui, surtout chez les jeunes.
Surtout chez les jeunes, et... Là, il y a une autre question qu'il faut poser et qui, pour moi, me tracasse beaucoup. J'ai été dans les métiers financiers toute ma vie et l'économie de marché implique que dans les marchés financiers, les investissements se fassent en fonction de la rentabilité marginale du capital investi qu'on découvre un petit peu en faisant des erreurs. Vous voyez, c'est un, il y a tout. Mais maintenant, dans, par exemple, dans les grandes SICAV, les grands fonds de placement, etc., ils ne sont plus libres de leur politique d'investissement. C'est-à-dire que vous avez des critères ESG, ils sont obligés d'investir. C'est-à-dire que l'investissement ne va plus vers là où il est rentable, mais là où, on, où le gouvernement vous dit de le faire. Et là aussi, c'est une perte de rentabilité considérable. Donc, on est en train de sortir d'une économie libre pour entrer dans une économie dirigée par des critères dont on sait qu'ils sont stupides.
Oui, exactement. Et ESG, je crois que la population n'est pas suffisamment consciente de ce piège. Bon, la population sait maintenant qu'on parle beaucoup de changement climatique, etc. Mais l'ensemble de l'ESG est vraiment préoccupant.
Oui.
Et il va y avoir une réaction parce que c'est pas possible de continuer à perdre de l'argent comme ça. Les entreprises vont perdre beaucoup d'argent. Les États, certains États américains, une douzaine d'États américains, ne travaillent plus avec les banques qui mettent le critère ESG.
J'ai vu, il y avait un certain nombre d'États, comme le Texas, etc., qui maintenant ne travaillent plus avec BlackRock.
Oui, parce que ça va pas. Vous voulez notre destruction.
Vous voulez notre destruction. Et c'est une réaction qui est facile aux États-Unis parce que c'est un système fédéral. Vous vous souvenez, l'Europe avait été créée sur l'idée de la subsidiarité au départ, qui est une notion chère à l'Église catholique, puisque c'est de là qu'elle vient. Eh bien, cette subsidiarité, on a l'impression que l'Europe, depuis une vingtaine d'années, fait tout pour tout faire remonter vers le haut.
Oui.
Et à la place de laisser les choses en bas, on fait tout pour remonter vers le haut, donc pour arriver à une société dirigée, et non plus une société gérée par le bas. Et ça aussi, c'est un truc qui est très inquiétant.
Lorsque Jacques Delors est décédé au mois de janvier, j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet, justement pour montrer la dérive qu'il y a eu.
Bien sûr.
Parce que Jacques Delors voulait travailler vraiment dans un domaine de subsidiarité, mais elle n'existe pratiquement plus en Europe. Parce que c'est Strasbourg qui décide tout. Strasbourg et Bruxelles. Tous les détails de notre vie. Je reviens à ce que dit M. Lindzen. Vous contrôlez la vie en contrôlant les émissions de CO2.
Très bien, mais qui leur a donné ce pouvoir et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est
l'absence du vide. Hein. Voilà. Bon, on est arrivé avec une belle image, le verdissement de l'image, mais c'est quand même beau si vous allez dire à une population qui ne peut pas comprendre, ou plutôt qui ne peut pas maîtriser la complexité de ce qu'on est en train de dire. C'est complexe, cette question de développement durable et de l'énergie. Et donc, on résume en disant, mais vous savez, on va avoir de l'énergie propre, sans polluer, et les capitalistes ne vont plus gagner de l'argent, on va faire tout local, c'est nous-mêmes qui allons nous en tirer, on va s'en sortir. Ben, les gens croient, c'est magnifique. Et il n'y a personne qui a contredit ça. Parce que dès que vous contredisez, vous êtes un vilain capitaliste ou même un fasciste, tout simplement. Hein.
Donc, bon, de toute façon, si vous êtes un capitaliste, vous êtes un fasciste de nos jours. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un discours qui est de dire la main visible, en gros, on va vous dire vous êtes un ultra-libéral, hein, comme si nous on disait ultra-communiste.
Oui.
Mais vous allez être ultra-libéral, hein, vous êtes toujours ultra, vous êtes dans l'outrance, et vous dites, bah non, simplement, je veux un truc qui fonctionne et qui soit rationnel. Ah bah non, parce que personne, et si vous dites que ça ne fonctionne pas, vous avancez des chiffres, bah encore une fois, c'est très souvent quand on parle de l'AREN, de ce système qu'ils ont mis en place, et en disant, mais enfin, vous avez bien vu que là, avec ce qui s'est passé avec l'Ukraine et le gaz russe, ça nous a mis dans une panade noire, mais personne ne veut le voir en face. Personne ne regarde les chiffres en face et on dit en France, mais enfin, voyez bien qu'avec l'arrêt du gaz russe, on s'est retrouvé quand même. Oui, c'est comme disait Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il y avait des maillots. Et bien là, force est de constater qu'on n'avait pas des masses de maillots. Et c'est pas Bruno Le Maire qui peut nous contredire.
Non.
Alors on fait quoi?
Hier, dans le Financial Times, il y avait une interview de Fatih Birol, le président, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Et j'étais quand même content parce que il disait que l'Europe a fait des erreurs énormes, notamment en ayant abandonné le nucléaire. Et j'ai répondu à mon fils qui m'avait envoyé ce texte, j'ai dit oui, mais moi je ne le crois plus, ce monsieur.
Voilà.
Je ne le crois plus, parce qu'il ne dit pas toute la vérité. Il continue à faire croire au monde entier qu'on va faire la décarbonation avec des énergies renouvelables. Mais c'est vraiment prendre des gens pour des imbéciles. Je suis triste que cette institution qui a été vraiment à la base tout le développement de la notion de politique énergétique chiffrée, hein, parce que c'est ça l'agence de l'énergie, des données chiffrées de qualité, maintenant sont tombés dans ce panneau vert.
C'est ce que m'ont dit plusieurs personnes, c'est intéressant ce que vous dites, ils m'ont dit, ils ont complètement trahi leur mission.
Exactement.
Et là, j'arrive à une question qui me tracasse, c'est que vous êtes un scientifique, à l'évidence, et donc, moi ce qui m'a toujours... C'est la science, c'est qu'on commence avec des faits.
Oui.
Et puis, on émet des hypothèses. Mais en principe, on a des faits. Et aujourd'hui, quand je dis à mes clients ou à des gens, voici quels sont les faits, ils me disent, vos faits sont des faits de droite. Et je leur dis, attendez une seconde, c'est nouveau ça. Il n'y a pas des faits de droite et des faits de gauche. Il y a des faits. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé dans un système qui devient anti-scientifique.
Oui, oui, tout à fait.
Science est suspecte.
Oui. Je vais vous donner un exemple. C'est l'hydrogène.
Oui.
J'ai travaillé dans l'hydrogène à plusieurs époques de ma vie, y compris dans mon doctorat, quand je faisais de la recherche sur la conversion des produits pétroliers. Puis à la Commission européenne, j'ai travaillé. Quand je suis rentré à la Commission européenne, directement, j'ai été impliqué dans les projets que le centre de recherche commun à Ispra, en Lombardie, développé pour produire de l'hydrogène. Et puis, de nouveau, encore plusieurs étapes. Et quand, en 2020, Madame von der Leyen lance une politique énorme de développement de l'hydrogène, je n'en revenais pas. Parce que la Commission européenne a commencé à travailler dans ce domaine en 1960. Donc, ça faisait 60 ans. 60 ans après, on impose une politique... Alors que pendant 60 ans, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution technologique.
On l'a fait quand même.
Et on le fait quand même. Et puis, j'ai voulu approfondir les questions. Et c'est quelque chose de vraiment abracadantesque. Hein. Environ une grosse partie, pratiquement tout l'hydrogène qu'on produit dans le monde, parce qu'on produit 130 millions de tonnes d'hydrogène. Hein. C'est énorme, hein. On produit 22 millions de tonnes de cuivre, un métal, et puis 130 millions d'hydrogène, pour donner l'ordre de grandeur, hein, c'est vraiment important. On le produit pratiquement tout avec du méthane. Et puis j'ai voulu aller voir pourquoi, et j'ai fait je suis ingénieur chimiste, donc j'ai fait quelques équations de chimie, et j'ai compris. Donc pour produire de l'hydrogène, il y a deux solutions. Ou bien on casse un hydrocarbure, parce qu'il y a de l'hydrogène. Le plus simple, c'est le méthane, CH4, le gaz naturel. Ou bien on prend l'eau, H2O. Et pour casser la molécule d'eau ou de méthane, eh bien, il vous faut 7 fois plus d'énergie pour rompre la molécule d'eau. 7 fois. Et donc, historiquement, personne n'a jamais fait ça. J'ai été reprendre un livre de chimie industrielle de 1920.
A priori, les choses n'ont pas bougé. C'est ce qu'il y a de bien avec la chimie.
C'est la chimie, elle n'a pas bougé.
C'est pas comme la grammaire.
En 1920, ils expliquaient que c'est inutile de faire de l'électrolyse de l'eau parce que c'est hors de prix.
Et voilà, et on s'est dit, bah non.
Et on s'est dit non. Et non seulement c'est, on va le faire avec de l'électricité, mais on va le faire de l'électricité verte. Alors qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y a que 3% d'électricité verte.
Parce qu'on pourrait à la limite imaginer, si on avait des centrales nucléaires pour qu'elles restent à leur optimum tout le temps, on pourrait essayer de... Si l'électricité était à zéro, dans ce cas-là, on pourrait peut-être essayer de casser
oui,
l'eau, là.
Alors, je reviens à la recherche d'ISPRA. À ISPRA, ils avaient compris tout ça, à la Commission européenne. Hein. Quand je dis ISPRA, c'est la Commission européenne. Ils avaient compris tout cela et ils ont dit, ben, on doit développer des nouveaux types de réacteurs qui permettent de, non pas de casser la molécule d'eau avec de l'électricité, mais avec de la chaleur. Et donc, peut-être qu'un jour, on y arrivera, mais il faut revenir aux fondamentaux de l'énergie nucléaire.
Oui, voilà. Bah oui, pour casser.
Voilà. Et donc, cette histoire, c'est vraiment une manipulation énorme avec des milliards dépensés pour ça. Des milliards.
Donc, vous dites que quelqu'un comme Mme von der Leyen, qui probablement n'a jamais fait d'études de sa vie, ou j'en sais rien, ou pas grand-chose.
Elle est médecin.
Elle est médecin, oui, ouais, un petit peu.
Enfin, il y a une question sur sa thèse, quand même.
Il y a une question sur sa thèse. Et donc, elle a. Soit elle ne savait pas, elle a imposé un truc où elle avait une compétence. Soit elle a préféré mentir pour lancer des grands programmes, mais...
Oui, mais il n'y a pas qu'elle, c'est une collusion. C'est une collusion.
Oui, c'est tout le monde.
C'est tout le monde. Tout le monde ferme les yeux. C'est pas qu'une personne.
Il y a eu vraiment une frénésie de dire, voilà... Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que D'abord, les Allemands ont été embêtés parce qu'ils ont mis trop d'éoliennes et ils ne savaient pas comment stocker l'excès d'électricité quand il n'y a pas de demande.
Personne ne le sait.
Personne ne le sait. Il n'y a pas de solution. Donc, ils se sont dit, on va revenir à l'hydrogène, la vieille... Vous savez, les nazis ont fait ça. Hein. Mm-hmm. J'explique ça dans mon livre. Hein. Les nazis ont voulu trouver cette solution. Et donc, l'Allemagne a voulu lancer cette production d'hydrogène à partir des éoliennes. Mais les gens se sont rendus compte que ce 3%, ça ne marche pas, quoi. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. On a besoin de
rêve.
Vous avez employé le mot rêve tout à l'heure. Hein. On a besoin de rêve. Et donc, l'hydrogène, bah, c'est sympathique, l'hydrogène. Quand on rentre dans une classe de chimie, on voit le tableau de Mendeleïev et le premier cas, c'est l'hydrogène. Tout le monde connaît l'hydrogène. Et donc, on croit qu'on connaît un peu de chimie parce qu'on connaît le mot hydrogène. Et puis, on fait du n'importe quoi.
Mais c'est là où, dans le fond, il y a eu un passage, il y a un changement de génération, parce que la génération des Européens d'après la guerre, ils voulaient faire des trucs pratiques et qui marchent. Tandis qu'aujourd'hui, on veut faire des trucs qui cherchent à faire rêver.
Oui.
C'est ça, nos hommes politiques, c'est des gars. Mais c'est ce que disait Raymond Aron de Giscard. Il disait, cet homme ne sait pas que l'histoire est tragique. Est-ce que ça nous amène pas à une histoire tragique à la fin, ça?
Si, je reviens au sous-titre de mon livre, je suis préoccupé par ça. Parce que je crois qu'on est... L'Europe, hein, la société judéo-chrétienne est née en Europe, l'Europe a développé la science, a développé la technologie,
bien sûr.
Développé le bien-être. Notre qualité de vie vient de ce développement, de la liberté, du droit de propriété. Et puis tout d'un coup, on est en train de dire, on va faire l'inverse. Ce qui est préoccupant, c'est que le reste du monde est en train de nous copier.
Oui et non, parce que ici, on parle très souvent du développement qui est en train de se faire dans l'Indo-Pacifique. Et quand on regarde l'Inde, bon, la Chine aussi, l'Inde, c'est-à-dire cette espèce de croissant qui va aller jusqu'à Maurice et ainsi de suite, eux, je peux vous dire que, nos histoires de greenwashing, ça leur passe royalement au-dessus de la tête. Et ils sont occupés à être en cycle de fin de production, vous savez, des cycles d'aphtalion, je ne sais pas. Et donc là, ils sont en plein boom consumériste comme nous, on a pu avoir dans l'après-guerre. Et toutes nos histoires, wokisme, tout ça, mais alors, ils ne sont pas là pour ça. Hein. Et ils ont encore des structures familiales, comme vous savez, très structurées. Énormément d'or, d'épargne dans les particuliers. Donc, ils sont partis pour un boom. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que notre temps, semble révolu et le pouvoir, c'est-à-dire il y a eu la grande entreprise industrielle du 19e, on est passé un peu aux États-Unis, nous en Europe on a quand même boomé dans l'après-guerre et puis là la force, la créativité est en train de passer vers l'Indo-Pacifique sans qu'on réagisse.
Parce qu'ils croient encore à la science,
bien
au
sûr.
Progrès. Là-bas, les étudiants ne vont pas faire de la sociologie.
Non.
Ils vont dans des écoles d'ingénieurs et de,
bah,
de chimie, de
en
physique,
Inde,
biologie.
En Inde, on a des ingénieurs en veux-tu en voilà.
Voilà. Et
ils vont construire des ponts.
Vous dites
ils vont
un truc
faire.
Un truc important, c'est ils croient encore au progrès. Et ben, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que toutes nos classes dirigeantes ne croient plus au progrès. Mais quand je fais une analyse qui est peut-être un peu sommaire, mais les gars qui s'occupaient de ça il y a 50 ans, c'était des corps des mines. Aujourd'hui, ils sont des inspecteurs des finances, chez nous, en France.
Donc c'est un peu comme ça partout. Hein,
ouais. On a remplacé les types...
Des producteurs.
Des producteurs...
Les types qui voulaient faire des ponts.
Des administrateurs.
Des producteurs, créateurs, innovateurs.
Innovateurs, et qui aimaient avoir les mains dans le cambouis.
Bien sûr, bien sûr.
Par des gars qui, dans le fond, n'ont jamais vu une usine. Et,
c'est pour ça que j'ai voulu faire des études d'ingénieur, parce que j'étais passionné par tout ce qu'on peut construire. C'est formidable. Et cette passion, comme vous dites, elle existe encore
En Inde, en
Chine, etc. Le 9 avril, donc il y a juste quelques jours, Narendra Modi, le premier ministre d'Inde, a fait un tweet. Nous sommes, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, nous sommes parvenus à produire plus d'un milliard de tonnes de charbon. Et cela va continuer pour que nous puissions être les leaders du monde. Narendra Modi.
Il a pas l'air d'avoir de problème là, avec le charbon.
Un milliard de tonnes de charbon. Et j'ai fait des calculs, ça se trouve dans ce livre. Si l'Inde arrive en 2050 au niveau de consommation par habitant de ce que nous avons nous en Europe, Si la population reste à 1,3 milliard, ce qui n'est pas certain, ils vont produire 7,2 milliards de tonnes de charbon. Nous aujourd'hui, de tonnes de CO2. Nous aujourd'hui en Europe, on en produit 2,7. Et donc, ils vont multiplier par 3 nos émissions, à condition que la population n'augmente pas. Et ils sont déterminés. Et donc, toute notre lutte pour réduire les émissions de CO2, rien qu'un pays va multiplier 3 fois. Incroyable.
C'est pas avec nos poubelles jaunes.
Mais comment est-ce possible de refuser de voir cette réalité? Un président du G20, un membre du G20, qui vient dire, de se vanter, de dire on a produit plus d'un milliard de tonnes de charbon.
Et le charbon, on va pas en manquer, parce qu'il y en a partout en Sibérie, il y en a partout. Le charbon, c'est pas un truc. Personne n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas assez de charbon.
Bien sûr.
Mais alors dites-moi, donc, si on récapitule, l'hydrogène, ça fonctionne pas. Les éoliennes, on sait ce qu'on en pense. Alors, moi, j'ai deux questions. Qu'est-ce qu'on pense? Première question, des panneaux solaires. Et ma deuxième question, c'est, en imaginant qu'on arrête ces fariboles la semaine prochaine, combien de temps il nous faudrait pour remettre sur pied des centrales nucléaires dignes de ce nom, étant entendu que est-ce qu'on a aussi les jeunes formés pour le faire? C'est-à-dire, demain, on dit, bon, allez, ça suffit tout ça, on se remet au travail, on fait les choses bien. Combien de temps il faudrait pour lancer un cycle? Le premier, c'était le solaire.
Tout d'abord, le solaire... Le solaire, ça fonctionne. Vous voyez, vous sortez dans la rue, vous voyez des panneaux solaires partout. Le taux de charge d'un panneau solaire, c'est 11%. Ça veut dire que vous achetez un panneau solaire, soi-disant, pour produire 100, et au bout de l'année, il vous aura produit 11. Et la nuit, ça existe.
Oui.
Les nuages, ça existe.
Oui.
Et la rentabilité d'un panneau solaire, elle est au zénith, parce que après, ça diminue fortement aussi.
Oui, parce qu'il devient crasseux.
Voilà. Et ouais, donc, c'est clair, la moyenne européenne, c'est 11%. L'éolien, c'est 23%. C'est un peu mieux, mais pas beaucoup. Et donc, l'illusion de mettre des panneaux solaires, ben, elle dure 11% du temps. C'est-à-dire qu'à côté, il vous faut un système différent.
Oui, donc il vous faut...
Le système actuel. Donc, il nous faut deux systèmes pour produire l'électricité. Forcément, c'est pas rentable. Du point de vue économique, du point de vue macroéconomique, ça marche pas. Forcément.
Et le système alternatif, ça peut être que du gaz.
Voilà.
Peut-être de
peut-être un peu de nucléaire, mais surtout du gaz. Et oui. Donc,
c'est le seul qu'on peut piloter.
Voilà. C'est ce que l'Allemagne a fait. Donc, c'est pas une solution universelle. C'est pas possible. De plus, on va tomber dans un problème géopolitique de dépendance à outrance de la Chine.
Bien sûr, aussi.
Il y a pratiquement plus de producteurs européens, donc on doit tout acheter en Chine, et elle contrôle le marché, donc c'est incroyable. Non, ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour des niches, bien entendu, certaines petites applications, pourquoi pas. Mais c'est pas une politique qui va sauver l'Europe, certainement pas. Donc il faut revenir à autre chose. Autre chose, c'est le nucléaire, il faut relancer le nucléaire. Je crois qu'on est en train de prendre conscience à l'Europe qu'il faut relancer le nucléaire. Il y a encore énormément de réticences de quelques pays, et pas seulement de l'Allemagne. Mais finalement, l'évidence est là, on va revenir au nucléaire, surtout quand on voit ce qui se passe en Chine, en Corée, en Russie et aux États-Unis. Ils sont en train de courir vers le développement du nucléaire, de nouvelles générations, des SMR... Bon, on peut pas rester en arrière, donc on va y arriver.
La Corée, ils sont jamais arrêtés.
Voilà, exactement. Ils ont vendu la centrale de Baraka aux Émirats Arabes Unis au nez à la barbe de la France. Monsieur Macron était très fâché, ou Monsieur Hollande était très fâché. Mais bon, voilà. Comment voulez-vous être crédible pour aller vendre des centrales dans le monde quand vous dites, ben nous, on va diminuer parce que ça va pas le nucléaire.
C'est un argument commercial très fort.
Monsieur Macron a couru à Varsovie lorsque les Polonais ont dit on va construire des centrales nucléaires. Il est allé dire oui, mais nous, la France, vous savez, on est des champions. On lui dit oui, vous êtes tellement champions que vous
voulez
l'utilisez arrêter.
Pas chez vous.
La moitié. Voilà.
Et donc, ils ont acheté General Electric américain. Voilà. Et en Ukraine, cette semaine-ci, ils ont commencé la construction d'une centrale General Electric américaine qui avait été décidée avant la guerre.
On a oublié ce qu'était un village Potemkin. L'idée, c'était avant, c'était quand même d'avoir un truc à montrer. Donc, on devrait avoir au moins 2-3 centrales Potemkin.
On en a une là-bas qu'on a essayé de lancer, mais ça fait 11 ou 12 ans qu'elle a du retard. Donc, ça, c'est un peu triste.
Oui, alors pourquoi a-t-elle du retard, cette centrale? Je reviens à votre question. C'est parce qu'on a négligé la continuité.
On peut pas faire du stop and go dans une technologie. Non. Ah ben il faut continuer. Or, l'Europe a fait du stop and go. On a arrêté en se disant, il n'y a pas d'avenir, l'avenir, c'est le renouvelable. Oui, bon, maintenant, on revient. Il y a moyen, parce que le changement climatique ne change pas l'intelligence des gens.
Oui, c'est vrai.
Oui, et donc, il y a en Europe, il y a encore beaucoup de gens intelligents.
Alors oui,
mais il faut les convaincre de rentrer dans ce métier.
Il faut les former, ça prend du temps.
Oui, ça. Mais ça commence. Hein. Vous savez que il y a quelques années d'ici, il y avait pratiquement plus d'étudiants en sciences nucléaires. Et puis les jeunes ont compris, et maintenant ça reprend. Dans beaucoup d'universités, on reprend des études de sciences nucléaires.
Parce que s'ils ont des professeurs.
C'est tout juste, il y a encore des professeurs. Mais c'est tout juste, si on avait entendu encore 5-10 ans, c'était trop tard. Donc moi je suis optimiste, on était au bord du précipice sur le nucléaire, mais on va récupérer rapidement.
Et on n'a pas fait un grand pas en avant ?
Non, mais je crois que on a vu qu'ailleurs ça marche, et donc il faut revenir en arrière. Mais vous n'avez pas posé la question directement, mais je voudrais quand même dire que je conclue le livre là-dessus. Il faut revenir à l'avenir du passé. C'est-à-dire que dans il y a 10 ans, 20 ans, on savait quel était l'avenir.
Oui.
Et donc il faut revenir à cette vision.
Mais on n'a pas eu le courage politique de le faire.
Et on n'a pas eu le courage politique de continuer, parce qu'on le faisait. Et puis on a dit maintenant on arrête.
Mais je crois que nous sommes dans des générations d'hommes politiques, d'hommes et femmes politiques, qui ne se projettent absolument plus dans le futur. Donc ça c'est déjà le premier problème. On le voit nous à notre niveau dans la gestion de la dette. Avoir des gouvernements qui comme ça se disent quoi qu'il en coûte, sans absolument réfléchir à ce que sera demain et comment les marchés financiers vont gérer les 3 300 maintenant milliards de dettes et la hausse des taux d'intérêt et ce que ça implique aussi en termes de gestion courante. Donc on a vraiment l'impression d'avoir littéralement des enfants qui ne réfléchissent pas à l'acte d'après, c'est-à-dire je saute dans une piscine sans m'être posé la question si j'avais une serviette pour me sécher ou ainsi de suite. Il y a pas de
il y a
clairement pas d'étape d'après. Ouais. Peut-être parce que les mandats sont courts et qu'ils se disent qu'ils auront fait leur temps et puis c'est un peu un jeu de mistigris, c'est « Ah, c'est ton tour !» Et c'est peut-être leur grande idée. Peut-être que leur grande idée, c'est de se dire, après tout, on va laisser une situation intenable et on va la filer à Marine Le Pen et on dira « Vous voyez, on vous avait bien dit !» Mais c'est possible, hein, c'est peut-être leur grande idée. Mais on va se retrouver donc sans croissance économique.
Oui, mais ça, je me méfie parce que je me souviens de Chirac qui avait fait battre Giscard. En partant du principe que Mitterrand s'en irait tout de suite parce qu'il allait échouer, mais on a eu les socialistes.
On s'est pris 14 ans.
On s'est pris 14 ans, plus les autres derrière. Donc, la politique du pire est souvent la pire de politique. Mmh. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'occuper de son pays et de le gérer convenablement plutôt que de le gérer mal, être battu en espérant qu'on reviendra la fois d'après.
Ouais, le machiavélisme, ça ne marche pas. Hein.
Ça marche très très mal. Dans la science, ça marche assez mal, le machiavélisme. Vous avez vu que la science, en fait, maintenant en Californie, on a décidé que les mathématiques étaient de droite aussi.
Oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est incroyable.
C'est quand même étonnant, mais on arrive à des aberrations. Donc, j'en conclue que c'est la connerie est de gauche maintenant. Non, je me demande si elle n'a pas toujours été quand même.
Non, mais moi, ça me rassure quand même fortement de vous entendre dire que si toutefois on y mettait notre volonté et que si on voulait, nous, la France, on pourrait aujourd'hui relancer matériellement un programme nucléaire de qualité avec des bons ingénieurs. Mais effectivement, il faudrait la volonté politique et que la population aussi soit derrière et se rende compte
mais
de l'enjeu.
Mais la majorité, personne
n'a jamais. Oui, mais de l'enjeu industriel que ça représente et de l'enjeu d'indépendance de notre pays parce qu'on ne peut pas être ainsi dépendant des énergies d'autrui. Et il faut que...
Plus avoir d'énergie du tout, ce qui est pire que tout.
Oui, il faut qu'à hauteur de l'Europe, ce sursaut arrive aussi.
Vous parlez d'autonomie, là, quand vous pensez qu'on a refusé de savoir si on avait du gaz de schiste en Europe.
Oui.
Refusé. On ne peut pas faire de la recherche.
Oui, je sais.
Monsieur Hollande a interdit cela. Par contre, la France est le premier pays qui achète du gaz de schiste aux États-Unis. Et les États-Unis, évidemment, vendent du gaz de schiste dans le monde entier. C'est incroyable, quoi. C'est une véritable révolution, le gaz de schiste. Hein.
Oui.
Les gens n'ont pas conscience.
Oui, tout à fait. Ça a changé l'équilibre.
Ça a changé. La véritable innovation de ces 50 dernières années,
c'est ça.
À part le nucléaire,
c'est le gaz de schiste. Hein.
Alors, est-ce que c'est vrai que, justement, je crois que c'était le port de Hambourg qui était censé recueillir ce, et que il n'est pas adapté à la livraison par bateau des choses et qu'il va falloir revoir ces ports?
Non, les Allemands ont refusé de construire des terminaux gaziers comme en France,
ça,
il y a à Fos-sur-Mer ou à Montoire-de-Bretagne ou à Dunkerque. Il y a des terminaux gaziers dans pratiquement tous les pays d'Europe, maritimes, hein, évidemment, sauf en Allemagne. Et donc, ils ont trop fait confiance à la Russie, et c'est pour ça qu'on est dans une catastrophe.
Bien sûr.
Et donc, dardard, ils ont voulu faire des installations, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des bateaux qui reçoivent le gaz qui est dans des bateaux. Donc, ils déchargent un bateau dans un autre bateau. Ah oui. C'est pas des vrais terminaux gaziers comme
Donc, c'est beaucoup plus long comme processus.
Avec des silos, enfin, pas des silos, des réservoirs. Et donc, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus marginal. Ils vont essayer de le faire, mais ça va prendre du temps.
Bon, c'est ça que j'avais dit entendre.
Qu'est-ce qui est arrivé à l'Allemagne? Parce que l'Allemagne était un petit peu quand même... le cœur économique de l'Europe, le cœur de la rationalité, ça a été un grand peuple scientifique, etc. Pourquoi ils ont cette espèce de... Ils veulent plus faire de péché? Qu'est-ce qu'il y a? Du point de vue chrétien, comment vous analysez ça? Parce que l'Allemagne, c'est quand même un drôle de truc. Hein.
Il y a eu, pendant une quarantaine d'années, un sens de culpabilisation.
Oui.
Mais il fallait oublier le passé. Enfin,
oui. Donc il va être plus blanc que blanc aujourd'hui.
Oui, donc le pacifisme c'était ça. Puis il faut pas oublier aussi que l'Allemagne de l'Est était communiste et donc c'était facile d'envoyer des espions de l'autre côté pour dire que le nucléaire c'était pas bon, ouais. Parce que l'Europe avait une longueur d'avance par rapport à l'Union soviétique en matière de nucléaire. Et donc, pour ne pas que l'écart devienne trop grand, c'était facile d'intoxiquer la population allemande en disant « bon, le nucléaire, c'est pas bon, quoi ». À la fois pour les raisons pacifiques, mais aussi pour des raisons pour que l'Union soviétique ne reste pas trop à l'arrière. Et puis, il y a eu vraiment cette prise de conscience de la nature. N'oubliez pas que Hitler était aussi un écologiste.
Oui, oui.
Voilà, donc la nature, retour à la nature. Donc, c'est toujours ça qui revient. Et puis, je pense aussi que, pour revenir à ce qu'on disait au début, en Europe, il y avait quand même une vision positive de l'humanité, une vision de croissance, du bien-être, basée sur... la fraternité, voilà, on n'est pas là pour s'enrichir pour soi-même, mais pour que le bien commun puisse se développer et créer de la prospérité. Et puis, quand cette notion est partie, ben, on a dit, ben, c'est pas bien, voilà. Et donc, il faut arrêter la croissance. Et donc, ils sont devenus décroissants, verts et pacifistes.
Ils ont cessé d'être chrétiens.
Et c'est pas une grosse majorité, mais vous savez, ce sont toujours ceux qui parlent le plus qui influencent la société.
C'est ce que dit Nassim Taleb, oui.
Voilà.
C'est ce que vous disiez.
C'est ça qui s'est passé en Allemagne. Pardon.
C'est ce que vous disiez dans votre premier livre, et ça rejoint ce que disait Chesterton, qui était « quand les hommes cesseront de croire en Dieu, ils croiront en n'importe quoi ». Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Gaïa, ce dont vous parliez dans votre premier livre sur les chrétiens et l'écologie. C'est que, en fin de compte, les gens se sont mis à croire en la nature comme une sorte de Dieu. Et c'est devenu un absolu et quelque chose auquel on doit penser absolument tous les stades de notre vie. Donc en fait, au lieu de dire, comme dans la Bible... quand Dieu nous dit je vous donne à vous hommes cette nature à charge que vous le fassiez bien sûr sans jeter, sans casser, sans bon. Mais quelque part nous ne sommes pas nous dépendants d'elle, c'est elle qui doit être utilisée par nous.
Bien
et
sûr.
On a inversé l'ordre des choses un petit peu désormais.
Pour apporter de la prospérité à toute la population mondiale, non pas aux privilégiés, il faut créer. Il n'y a rien à faire, on doit créer, tout le monde doit être créateur. Et pour être créateur, il faut deux sources, des ressources naturelles et l'intelligence, ou plutôt notre cerveau, pour faire travailler.
La liberté du cerveau.
La liberté du cerveau. Et si on a les deux choses, on arrive à ce qu'on a eu en Europe. Et donc, il faut que la situation en Afrique ne va pas changer si on continue. Les écologistes disent aux Africains, ne nous copiez pas. Nous, on s'est trompé, ne nous copiez pas, restez comme ça.
C'est incroyable, quoi. Donc, évidemment, avec toutes les ressources qu'ils ont, y compris le soleil, ils doivent se développer. Pour se développer, il faut changer cette mentalité, dire le progrès, c'est fantastique. Le progrès. Vous allez dans un hôpital, vous voyez la quantité d'énergie qui est utilisée.
Et l'imagerie médicale et les outils de la
c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et tout ça, c'est du progrès qui vient de la recherche, de la volonté de l'homme de faire du bien. Hein. Et donc, voilà, on doit continuer dans ce système, créé pour le bien commun.
Voilà. Eh ben, on ne serait plus d'accord. Hein.
Je pense que c'est une très belle conclusion.
C'est une très belle conclusion.
Oui, ça...
Et on revoit une fois de plus, ce qui est très visible chez vous, cette liaison entre la chrétienté et le développement économique, la science et la liberté.
Quoi. Et l'optimisme.
Et l'optimisme.
C'est formidable de conserver l'optimisme et de se dire que... Et c'est quelque chose que vous avez tous les deux en commun, c'est de se lever le matin en se disant « Qu'est-ce que je vais faire d'amusant aujourd'hui ?» Et ça, on le croise assez rarement dans la vie, dans un monde où les gens sont ternes et les gens ne rient plus. Et effectivement, se lever en se disant « Tiens, quelle bêtise je vais pouvoir faire
!» C'est merveilleux.
Voilà. Bon, en tout cas, nous, de notre côté, on ne peut, vous l'aurez compris, que vous recommander le 10 livres de M. Furfari.
Et le précédent.
Le précédent, mais alors il a changé de titre. Donc,
Chrétien écolo,
et qui a été republié, j'imagine, depuis une édition depuis la Belgique, mais qu'on doit trouver
sur Internet, il est partout,
et commandable chez vos meilleurs libraires. Voilà.
Prenez ce premier livre, parce que ça montre à quel point... L'écologie, c'est du paganisme, c'est de retour en arrière.
C'est le sous-titre du livre.
Oui.
Le titre, c'est « Chrétien écolo » et le sous-titre, c'est « Le retour du paganisme ».
Voilà, et c'est vraiment ça.
Et c'est ça, et dans le paganisme, tout le monde est malheureux.
En plus. Voilà, écoutez, merci encore de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'être venu cette belle journée. Et on vous dit à très bientôt dans de nouvelles aventures des invités de Charles Gave. Merci beaucoup.